Nous voici donc avec un enseignement de Jésus qui suscite bien des débats, des tensions entre chrétiens, surtout que c'est un sujet qui débouche sur la privation de l'union au corps du Christ. C'est la question du divorce. Essayons d'y voir clair. Premier point de cet évangile, les interlocuteurs de Jésus ne sont pas des chercheurs de vérité. Et cela est l'attitude fondamentale pour avancer vers le mystère de Dieu. Ils sont là pour le piéger. Dans ces cas-là, Jésus n'est pas très conciliant. Il va aller à l'extrême de l'enseignement. Un autre point important de la part de Jésus, quand il enseigne, il va bien au-delà de la loi. Vous vous rappelez, dans le sermon sur la montagne, « Vous avez appris, et moi je vous dis. » Il nous indique ainsi la voie de la perfection. Ensuite, lorsqu'il rencontre des personnes en situation difficile, il écoute en premier le vécu des personnes. Juste comme exemple, avec le thème d'aujourd'hui, la femme adultère. Il voulait la lapider. Lui, il terminera en disant « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Pour appuyer son enseignement sur le mystère de l'union de deux êtres, Jésus revient en tout début de l'histoire humaine avec nos deux ancêtres, Adam et Ève. Indirectement, il rappelle la création de l'humain. Le premier récit nous dit « Dieu les créa, hommes et femmes, il les créa ». En chacun de nous, il y a du féminin et du masculin. Vivons-nous cette unité ? Le deuxième récit évoqué dans cet évangile et entendu dans la première lecture nous rappelle que l'humain ne sait pas vivre seul. Il a beau voir défiler tous les animaux de la terre, pas un seul n'est à la hauteur de ce besoin d'un vis-à-vis. Entre parenthèses, c'est fort intéressant d'évoquer cela quand on voit la place que prennent les animaux dans certaines familles. Il a besoin de son vis-à-vis, cet homme, cet humain. Et quand la femme est créée, il l'appelle Isha, parce que lui, il s'appelle Ish. Alors, je ne connais pas l'hébreu, mais un des spécialistes que je connais nous révélait que Ish et Isha sont les deux lettres nécessaires à écrire le mot « Dieu ». Il faut laisser résonner ça en nous. J'ai besoin du Ish et du Isha qui sont déjà en moi. Nous sommes créés hommes et femmes. Et aussi dans notre relation les uns aux autres. Alors rappelons-nous que Dieu a créé l'humain pour avoir un vis-à-vis. C'est un amoureux de sa créature. Et dès le début avec lui, il propose une alliance. C'est ça la question du mariage, c'est une alliance. Rappelons-nous que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il est donc notre miroir. Et pour savoir qui je suis, il me faut regarder comme en miroir pour avancer vers le mystère la compréhension du mystère que je suis ou que nous sommes. Jésus, en rappelant cette injonction qui devrait tenir tous les couples, va bien au-delà d'une loi morale. Il nous rappelle l'origine de notre vie et de ce que nous avons à vivre ici, lorsqu'il invite à ne pas répudier l'autre. Il nous dit Ne te contente pas de l'immédiat, ni d'un petit bonheur du moment. J'ai plusieurs fois entendu des personnes divorcées parlant avec admiration des vieux couples qui ont tenu toute leur existence cette alliance entre eux, malgré les difficultés du parcours inhérent à toute vie de couple. Ces personnes reconnaissent qu'elles n'ont pas réussi à tenir cette alliance pour X raisons. Mais si on veut les résumer, bien souvent c'est le devoir de survie. L'un ou l'autre était en train de mourir. Lorsque le Christ dit à la femme adultère « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », il lui dit « Continue ta vie et n'oublie pas qu'elle est très importante et que tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Sois digne de la vie que tu as reçue. Honore l'alliance d'une vie que tu as avec Dieu. » Pour continuer mon commentaire sur cet évangile et pour parler d'un sujet très délicat, je vais faire un détour. Sûrement savez-vous que mardi matin prochain, la commission indépendante sur les abus sexuels en Église, qu'on appelle le CIAS, va rendre son rapport au président de la Conférence des évêques de France. C'est un rapport qui est une enquête demandée par l'Église elle-même pour faire vérité sur les abus sexuels au sein de l'Église. Travail de vérité et de purification, démarche qui a été plusieurs fois remarquée par des athées ou personnes loin de l'Église comme très courageuse. Ce rapport risque fort, une fois de plus, de révéler bien des situations très douloureuses, scandaleuses et difficilement entendables. Les responsables d'Église, évêques et responsables de congrégation, nous invitent à nous préparer ensemble à ce nouveau séisme pour accueillir au mieux ce qui est peu entendable humainement parlant. Avoir une attitude d'accueil et porter cela avec force dans la prière, tout particulièrement les victimes des abuseurs. L'une des intentions de la prière universelle sera donc à entendre avec force et compassion. Si j'évoque cette situation au milieu de mon homélie, c'est pour faire un lien avec le thème du divorce et les religieux abuseurs. Dans leur engagement à la vie consacrée, ils ont fait alliance avec Dieu au sein de l'Église, tout comme un couple fait alliance. L'un comme l'autre veulent signifier que l'amour de Dieu est le ferment d'une vie solide, quel que soit l'engagement pris. Lorsque des abuseurs sont capables d'abuser d'enfants ou même d'adultes, elles cassent cette alliance. Ces personnes cassent le projet initial de Dieu de nous faire vivre en harmonie. Ces abus sont le reflet à l'extrême de réduire l'autre à son propre plaisir personnel, alors même que Dieu nous a invités à nous donner à l'autre pour le bonheur de chacun. Prier pour les victimes, avoir des structures qui les accompagnent pour les aider à sortir de cet enfer, c'est très important. Et nous avons d'une manière ou d'une autre à nous y investir, ne serait-ce que dans la manière de parler de toutes ces situations avec beaucoup de respect et d'attention. J'ose une simple comparaison. Lorsqu'il y a un dégât des eaux dans une maison, il est très bien d'enlever l'eau qui déborde du lavabo. Mais ça ne sert pas à grand-chose si au préalable on n'a pas coupé l'arrivée d'eau. Je veux dire par là qu'un autre aspect de ces situations est trop souvent non pris en compte. Que faisons-nous des abuseurs? Notre société est très marquée par le jugement et la condamnation. Nous allons vite à les transformer en monstres et dont il faut se débarrasser. Mais la réalité est plus complexe que cela. Et quand je parle des abuseurs, j'ai tout particulièrement en tête ceux qui sont actifs actuellement. Bien sûr, nous pouvons espérer que ce travail de vérité entrepris en Église permettra une grande diminution du nombre d'abus. Mais ça ne va pas être magique. Nous avons à nous investir dans tout ce qui peut être préventif. Bien souvent, lorsque l'on est témoin de situations gênantes ou mal ajustées, on a une tendance à s'éloigner en se disant que ce n'est pas à nous d'intervenir. On sait, mais on ne dit rien. On ne veut pas réagir. Et peut-être est-ce là l'une de nos erreurs. Il nous faut apprendre à avoir le courage d'une parole et d'une démarche de vérité lorsqu'on peut être témoin de relations non ajustées et de faire une démarche envers le potentiel prédateur. Nous n'avons pas à nous transformer en justiciers solitaires sortant de la nuit, mais nous avons à avoir un regard de veilleur avec une attitude bienveillante. Comment aider une personne qui a des comportements douteux ou tout au moins confus ? Il y a parfois à aider à clarifier une relation, savoir initier à une relation respectueuse, laissant la liberté de chacun. Le chemin est exigeant et c'est pour cela qu'il peut être intéressant de réentendre ce que le Christ nous enseigne lorsqu'il y a quelqu'un avec qui il y a discordance. Que dit-il ? Va le voir seul à seul, puis avec deux ou trois de la communauté, puis enfin à la communauté tout entière. On entend bien là une question de progression. Ne pas diaboliser l'autre, mais s'appuyer sur notre espérance qu'en lui, il y a le germe de Dieu qui peut revenir sur la vie. C'est pour cela que je vous invite aussi à prier pour ces personnes qui vont jusqu'à abuser. Ce n'est pas pour rien que le Christ nous invite à prier pour nos ennemis, car ils sont ces éléments de la vie commune qui empêchent justement une vie en paix. C'est vers eux que doit s'orienter notre prière. Revenons maintenant à la finale de l'Évangile entendu aujourd'hui. Jésus réprimande fortement ses disciples qui veulent empêcher les enfants de venir à lui. Il nous donne, une fois encore, un enseignement extrême. Devenir comme des enfants. Nous avons été éduqués pour être autonomes, indépendants, ne rien devoir à qui que ce soit. Et là, le Christ nous dit que si nous voulons vivre le royaume de Dieu, il nous faut devenir comme ses enfants. Des êtres fragiles, vulnérables, dépendantes de leurs parents. Ils sont pleins de vie et ne peuvent la faire jaillir que dans une relation de confiance à leurs parents. C'est la relation que nous avons à vivre avec Dieu, notre Créateur. Il est l'origine de la vie, il est celui qui sait comment nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Demandons la grâce de devenir les enfants de Dieu.